Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Aujourd'hui, nous commencerons par les éléphants. En patron sur leur sol, déjà qualifié en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire a gagné son premier match avec son nouveau sélectionneur. Jean-Louis Gasset aura le défi de mener les Ivoiriens au plus haut l'année prochaine, bien sûr. Pour l'Algérie, l'heure de la rédemption a sonné. Humiliée en cette année 2022, les Fenech renouent avec la victoire, toujours guidée par Djamel Belmadi. Les Bleus tenus en échec par les Croates, l'équipe B, alignée par Didier Deschamps, a-t-elle offert des alternatives aux sélectionneurs? Au top, Mike Maignan, le gardien numéro 2 qui était dans les cages. Flop, Antoine Griezmann, mais le sélectionneur des Bleus peut-il s'en passer? L'Argentine, invincible depuis 33 matchs, l'Albi Celeste devient-elle pour autant la favorite du prochain mondial? Enfin, nous évoquerons les grandes manœuvres. C'est le titre d'un film, mais c'est aussi ce qui doit ou ce qui devrait se passer au Paris Saint-Germain. Mais si le nom de l'entraîneur reste incertain, plusieurs joueurs, Paredes et Icardi par exemple, ont déjà annoncé qu'ils restaient, comme le prévoit leur contrat. Que va pourvoir faire le nouveau conseiller technique, Luis Campos? Eh bien, nous en parlerons, n'est-ce pas, Eric Rabessandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis bonjour notre invité de luxe à chaque fois qu'il est là. Bonjour Carlos Bianchi.
Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Bonjour et bienvenue Carlos. Vous poserez votre regard sur tous ces sujets, évidemment sur celui de l'Argentine. David Finzelmaide a préparé l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire, un an de leur CAN 2023.
Les éléphants sont qualifiés d'avance puisque la Côte d'Ivoire est pays hôte, mais le tout nouvel entraîneur va devoir faire ses preuves.
Le stade est nouveau, le président est nouveau, le sélectionneur est nouveau, il faut marquer les esprits.
Et ce but de Christian Kouamé, le joueur...
Eh bien la première de Jean-Louis Gasset est un succès, succès 3-1.
Cette nouvelle aventure avec Jean-Louis Gasset démarre certes bien, mais n'est qu'à ses prémices.
Une deuxième journée d'éliminatoire donc en vue de la CAN 2023. Par exemple, demain, la Côte d'Ivoire jouera tout au sud du continent, au Lesotho, un royaume enclavé en Afrique du Sud. Les éléphants sont pourtant déjà qualifiés, puisque la CAN se jouera chez eux l'été prochain et leur préparation est double. Elle est sportive, bien entendu, mais elle est aussi mentale, comme l'a avoué Max-Alain Gradel au micro de notre correspondant à Abidjan, Mohamed Lamine.
Vous savez, ces gens d'équipe-là, ils jouent leur qualif. Et nous, on sait qu'on est déjà qualifié. Et c'est encore plus difficile de rester concentré, motivé. Et donc, c'est comme un test pour nous, mentalement. Mais n'oubliez pas que dans moins d'un an, il y a la CAN ici. Et les places sont chères. Je peux vous dire, au sein du groupe et l'état d'esprit, ce n'est pas des matchs amicaux simples. Sinon, je pense que beaucoup auraient préféré rester en vacances ou chez eux. Donc, je pense que c'est des très très bons matchs parce qu'on joue contre des adversaires qui jouent la qualif. Donc ils nous poussent jusqu'à des fois à nos limites.
Déjà qualifié mais aussi en phase éliminatoire. Eric Rabessandratana, la pression évidemment, elle va être forte sur cette équipe. Mais on l'a vu, elle l'a été aussi sur le Cameroun, elle a été sur l'Égypte récemment. Est-ce que finalement c'est le lot de tous les pays organisateurs et l'équipe nationale des pays organisateurs?
Ouais, alors après c'est surtout le lot des équipes qui représentent quelque chose dans le football africain surtout. C'est-à-dire que le Cameroun,
les auto-organisés...
Oui, ça se dirait... certainement moins de pression, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne préparation pour eux. Il n'y a pas de pression, nouvel entraîneur, voilà, il y a une dynamique qui va changer. Je pense que c'est bien, alors même si tous ces matchs-là sont à la fin d'une saison où les joueurs sont fatigués et tous les déplacements,
tout
ça,
de...
c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, c'est quand même intéressant pour la dynamique, pour redonner une dynamique à cette équipe de Côte d'Ivoire qui est quand même une très belle équipe africaine. Donc ça peut la mettre dans de bonnes dispositions.
Il faut être dans de bonnes dispositions et sportives et mentales, hein, Patrick.
Oui, absolument. Et je pense que ces matchs où on joue des équipes, comme l'a dit Gradel dans le son qu'on a écouté, qui, elles, ont un gros enjeu.
Cherchent la qualification.
Ça pousse aussi l'équipe à trouver la solution, parce que la Zambie ne peut pas aller en Côte d'Ivoire en se disant « on va attaquer à tout va parce qu'il faut qu'on gagne ». Ils sont obligés d'attendre et d'essayer de poser d'abord des problèmes pour ensuite contrer, en général, quand on joue à l'extérieur. Donc la Côte d'Ivoire va devoir jouer contre des équipes regroupées, donc ça c'est un premier défi. Et ensuite, il y a tout le défi de la constitution d'un groupe, parce qu'on a, et d'un groupe solide, parce que Patrice Baumel, on ne lui reprochait pas le manque de qualité de jeu, on lui reprochait plutôt une faiblesse mentale dans les grands rendez-vous, et ça, c'est peut-être un des défis principaux qui attend Jean-Louis Gasset.
Exactement. Le mental, alors on l'a vu au Cameroun cette saison, eh bien, le Cameroun n'a pas gagné la CAN. L'Égypte, en 2019, c'était pareil, elle avait même été éliminée plus tôt. Carlos Bianchi, quand le pays est organisateur, est-ce que c'est plus difficile finalement pour la nation qui organise? Alors, j'ai des exemples, le Brésil 2014.
L'Allemagne.
L'Allemagne en 2006, l'Italie en 1990. Bon,
Anglais et l'Angleterre, sauf qu'ils ont gagné en 66, oui.
oui, à l'Euro récemment, si je ne me trompe pas, le dernier pays organisateur à avoir gagné, c'était la France en 98, hein, je crois que dans les statistiques, il me semble que c'est ça.
Oui, en Afrique, il y a la Tunisie en 2004, par exemple. Mais effectivement, en Europe, c'est ça.
En Coupe du Monde
également.
C'est une obligation supplémentaire, mais ça ne donne pas la certitude. Mais même si
mais
c'est
tu
joues chez toi, c'est pas pareil.
Voilà. Est-ce que c'est plus difficile pour, je pense au Brésil 2014 par exemple, est-ce que ça devient finalement presque une mission impossible? Parce qu'il faut non seulement être bon sportivement, mais mentalement. Et en plus, le mental peut finalement influer sur le niveau sportif.
Non, je ne crois pas. Je pense que si tu joues chez toi, tu es plus fort dans ta tête.
Porté par le public aussi?
Eh oui, pas seulement pour le public, mais tu es chez toi. Alors, le moment que tu es chez toi, c'est quelque chose de plus important. Les Brésiliens, quand on croyait qu'ils allaient être champions du monde, ils se sont trouvés contre les Allemands. Je crois que jamais les Allemands ne sont joués si bien.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'ils gagnaient 8 ans.
7 ans.
7 ans. Et ils ont refusé un but. T'as raison. c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent, surtout à l'extérieur, gagner 7 ans. Mais le Brésil était une équipe pour être championne, mais c'est mieux de jouer chez toi. Oui.
Disons que là, l'exemple du Brésil, en termes d'émotions, ils ont été mangés par leurs émotions. Ce n'est pas une question de qualité, ce n'est pas une question de... Alors oui, l'Allemagne a été très très forte, mais le Brésil avait largement de quoi, même s'il y avait des joueurs en moins, il y avait largement de quoi rivaliser. Et en fait, ils ont été mangés par leurs émotions. Et c'est un peu le problème de l'équipe qui reçoit dans son pays, qui va devoir faire abstraction de ça. Et souvent, quand ça arrive, c'est inconscient. C'est-à-dire que cette pression, elle est inconsciente. C'est-à-dire que t'es motivé, t'es surmotivé par le fait que t'es chez toi et que t'es supporté par ton pays et tout ça, mais inconsciemment, t'as une pression supplémentaire. Et en fait, c'est cet équilibre-là qu'il faut arriver à garder.
Dis-moi une chose, tu crois que si la France de 98 ne jouait pas en France, elle était championne du monde?
Non, je suis pas sûr. Ouais. Mais après, il y a aussi, tu vois...
Ça peut être à double tranchant, en fait.
C'est un ensemble de choses, parce qu'il y a aussi la réussite, tu vois, il y a des matchs où tu passes sur le fil, parce que, bah oui, certainement, tes supporters vont t'aider, mais...
Sur la Côte d'Ivoire, quand même, je pense que c'est un élément vraiment qu'il faudra maîtriser, parce que la Côte d'Ivoire a un problème important avec les matchs à gros enjeux. Elle avait perdu au Cameroun un match qui était un match couperé qui aurait pu lui permettre de terminer première de son groupe et de jouer les barrages de qualif pour la Coupe du Monde. Elle s'est faite éliminer par l'Égypte lors de la dernière CAN, alors qu'elle avait été brillante contre l'Algérie dans un match où justement elle était déjà qualifiée, donc il n'y avait pas de pression. Donc cette pression du public, parce qu'il y a de fortes attentes du public ivoirien qui a tendance à voir son équipe peut-être un tout petit peu plus belle qu'elle n'est, donc à estimer qu'elle est la meilleure en Afrique, qu'elle a les meilleurs joueurs et donc qu'elle doit gagner... Ça ne va pas être simple à gérer. Et je pense que des joueurs comme Gradel, qu'on a entendu, qui est un joueur très expérimenté, qui a un trentenaire, ces joueurs-là, c'est Jean-Michel Seri, Gervinho, s'il revient, on ne sait jamais. Je pense qu'ils ont un rôle important pour canaliser un peu ça auprès de leurs jeunes coéquipiers qui pourraient, si ça devient trop pressant et trop fort, perdre un peu les pédales. Et c'est important d'avoir des vrais tauliers qui peuvent relativiser un peu filtrer tout ça, quoi. Et en plus du coach, qui lui est un homme très expérimenté, même si c'est son premier mandat en Afrique.
Jean-Louis Gasset, récemment choisi par le nouveau président issu des élections au sein de la Fédération internationale de football de Côte d'Ivoire, la FIFA. C'est un homme de défi, Jean-Louis Gasset. Nous, on le connaît bien en Ligue 1, plutôt spécialiste des opérations commando, comme on dit. Et là, c'est presque le cas, en fait,
c'est
Eric, parce qu'il a un an pour préparer un groupe et pour affronter la CAN avec peu de matchs, finalement.
Alors, peu de matchs, il connaît le football africain, mais il n'a pas pratiqué. C'est-à-dire que là,
de gérer
une équipe africaine.
Il connaît bien
Serge
Aurier, là, qui a mis d'ailleurs tout un symbole, le premier but de son premier match comme sélectionneur contre la Zambie la semaine dernière. Donc ça, c'est
après je pense qu'en termes d'expérience et en termes de choix d'entraîneur, c'est un très bon entraîneur, Jean-Louis Gasset. Après, voilà. Est-ce qu'il sera capable de relever le défi? Ça, c'est une vraie question. On change de culture, on change de l'approche du football, elle est complètement différente en Afrique. C'est-à-dire que ce que tu vas amener d'Europe dans ta façon de gérer un groupe et tu arrives en Afrique, il faut repenser complètement ce que tu as envie de faire, mais ça n'enlève rien aux qualités et aux possibilités.
La plupart, ils jouent à l'extérieur, je crois, ces joueurs-là.
Oui.
Ils jouent pas...
C'est ça le problème aussi, des fois.
Non, mais je dis, ils sont une mentalité déjà à l'européenne.
Oui, ils ont, mais pas tous.
Certains sont venus d'origine
française. Et le problème,
français,
c'est que ce n'est pas que le football, c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui gravite autour du football, ça peut être politique, ça peut être supporter, ça peut être les gens qui gèrent, qui sont dans le staff et qui viennent. C'est compliqué à gérer quand on ne connaît pas cette expérience-là. Alors, c'est autre chose.
Ancien sélectionneur de Madagascar, oui, je sais. Qui sait de quoi il parle.
Là où je pense que ce n'est pas un mauvais choix, c'est que Gasset, c'est un entraîneur extrêmement expérimenté, mais c'est sa première expérience comme sélectionneur d'une équipe nationale.
Même s'il était l'adjoint de Laurent Blanc.
Alors oui, il était à l'adjoint, mais il était vraiment dans l'ombre. Oui. Là, il va prendre la lumière.
Oui, tout seul.
Et ça, c'est autre chose. Je pense quand même que le fait qu'il soit qualifié d'office et donc qu'ils aient tous ces matchs pour faire des essais, ça peut l'aider à créer une sorte de club. Le club, on pourrait les appeler le club éléphant ou le club ivoire. Comme un club, vraiment une équipe de club.
Premier
et donc, je pense que son expérience, notamment ses qualités de tacticien, parce que c'était un très bon tacticien, c'était lui qui était un peu
le
cerveau de Laurent Blanc, à l'époque de Laurent Blanc au PSG, à Bordeaux, ça peut l'aider à créer quelque chose comme l'a fait Conceição avec le Cameroun, qui a vraiment dégagé un groupe, une équipe type vraiment bien définie, un plan de jeu bien défini. Le défaut de Conceição, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver de plan B et à réagir quand ça a mal tourné. Et je pense que Gasset a peut-être l'expérience pour le faire si ça se présente aussi.
Eric,
ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a moins de temps pour travailler. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler qu'un club où tu as les joueurs tous les jours, où tu peux mettre en place des choses. Là, tu as peu de temps pour le faire. Ça veut dire que tu as toujours 4 jours, 5 jours. C'est pas toujours facile pour...
Le joueur, il arrive fatigué de son club, etc.
Entre les voyages et tout ça, c'est compliqué.
Alors, eux, ils ne sont pas qualifiés d'office, mais ils ont déjà renoué avec la victoire, et c'est important. Eux, ce sont les Fenech d'Algérie. Ils ont remporté leur premier match de 1-0 contre l'Ouganda, c'était à Alger. Djamel Belmadi avait, on peut dire, Patrick Juillard, renouvelé, lui, son groupe, parce qu'il y avait 7 nouveaux. Il s'est passé de certains symboliques, mais fatigués sans doute, comme Riyad Mahrez. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Est-ce que les Fenech sont relancés pour vous? Et là, encore, mentalement? Parce qu'après l'élimination face au Cameroun chez eux, après la CAN ratée et tout, on avait vu quand même un certain abattement.
Oui, je pense que de toute façon, Belmadi a fait peut-être un peu tard ce qu'il aurait dû commencer à faire avant, quand le groupe s'usait un petit peu mentalement, notamment lors de cette quête du record mondial qui a un petit peu... vampiriser les préparations de l'équipe et un peu détourner l'équipe de ses vrais objectifs, à savoir peut-être garder son titre, ce qu'elle n'a pas su faire à la CAN. Et là, il a tranché dans le vif, il a enlevé plusieurs cadres. Ben Lamri en défense, c'est fini. Feghouli au milieu, qui était incontournable depuis 10 ans en sélection, il n'est plus appelé. Et on a un petit Bounedja en attaque, qui était le buteur numéro 2 de l'équipe, derrière Slimani, lui non plus, il paye ses mauvais résultats en face, ses mauvaises statistiques en club. Et surtout, Riyad Mahrez, on ne sait pas vraiment Si c'est,
t'as raison.
Si c'est, s'il voulait souffler parce qu'il était fatigué par sa saison avec Manchester City, ou si Belmadi a décidé de plus vraiment compter sur lui, ou du moins de faire appel à d'autres joueurs pour cesser cette mauvaise dépendance. En tout cas, là, Youssef Belaïli, qui était titulaire, a vraiment pris le leadership, a vraiment été le joueur clé qui a vraiment fait changer le cours du match. Extraordinaire joueur, vraiment, faut le souligner, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe, plus que Mahrez, même avant. Et donc, c'est bon augure pour la suite. Maintenant, c'est qu'un match, ils l'ont gagné, il fallait le faire, bravo à eux.
Dans ce renouvellement, Jabel Belmadi n'a pas appelé Andy Delors. Et on connaît le problème qu'il y a eu entre Andy Delors et Jabel Belmadi, et aussi finalement entre Andy Delors et l'Algérie. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Écoutons-le au micro de notre correspondant Abdennour Nouhiri, parce que Jabel Belmadi, il a d'une certaine façon, en tout cas il nous semble, rouvert la porte.
C'est un joueur qui a été exemplaire quand il a été avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Humainement, il n'y a aucun problème parce que c'est un joueur qui est sans problème. Il y a juste une prise de position qu'il a eue, pas par rapport à moi, par rapport à l'équipe nationale. Alors, je vous mets dans la confidence, il y a eu une discussion depuis. Maintenant, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus. En temps et en heure, il y aura Lucie à dire des choses. L'équipe nationale, c'est pas, elle appartient pas à Jabel Belmadi, loin de là. Je suis au service de cette équipe nationale et tous ceux qui sont au service de cette équipe nationale se doivent d'être, d'être irréprochables. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, quand les choses rentreront dans l'ordre.
Alors, les choses rentraient dans l'ordre. On a l'impression qu'il mange un peu son chapeau, ouais. Belmadi. Mais surtout, pour l'instant, il n'a pas vraiment rappelé Delors. Est-ce qu'il va remplacer la Mahrez dépendance par la Delors dépendance? Non, ce n'est pas le but.
Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Mais là, il rouvre la porte. Parce que
oui, pendant un
là,
moment,
il nous dit
que
l'équipe nationale d'Algérie n'appartient pas à Jabel Belmadi, certes. Mais ses déclarations sur Andy Delors à l'époque où il a fait cette mise au point, était beaucoup plus cinglante et catégorique. Là, on sent que la porte se rouvre et que, à mon avis, si la conversation qui va avoir lieu entre eux, sans doute, se passe bien, on va revoir Andy Delors prochainement avec le maillot de l'Algérie, sachant qu'Andy Delors aussi, lui-même, a peut-être un peu réfléchi et s'est peut-être dit « Bon, j'ai plus de 30 ans, j'aurais peut-être plus d'autres occasions de rejouer une CAN, donc il faut peut-être faire un pas maintenant. » Donc les planètes s'alignent à nouveau, peut-être.
Oui, elles s'alignent. Et puis, Belmadi a peut-être aussi réfléchi. Et que
il en a besoin.
Et que les derniers résultats ont peut-être lui ont montré qu'il avait peut-être besoin aussi de plus de choix pour avoir des résultats.
On pense à d'autres sélectionneurs, hein, notamment à celui du Maroc, par exemple, qui lui aussi essaye de faire des gestes, même petits, vis-à-vis de joueurs qui ne sont pas là. Carlos, parfois, quand on est sélectionneur ou entraîneur, et qu'il y a eu une brouille avec un joueur, mais qu'il est très important pour l'équipe, il faut passer au-dessus. Ou le sélectionneur doit rester sur sa ligne.
Ça dépend de la situation. Ça dépend de la faute qu'il a commis le joueur. Je pense que dans ces cas-là, il faut se rendre compte que si c'est bien pour l'équipe que lui joue, il faut qu'il joue. Même si nous avons des problèmes personnels. Je pense que d'abord, il passe l'équipe. C'est et ça. Après, on verra bien. Quand il a fini la compétition, là, on parlera et là, on tranche. Mmh.
Mais ouais. C'est un peu similaire au cas de Seko Fofana. On parlait de la Côte d'Ivoire, qui à peu près, d'ailleurs, au même moment qu'Andy Delors, a lui aussi décidé de, entre guillemets, mettre la sélection entre parenthèses pour donner priorité à son club. Et je pense que, de même que Delors pour l'Algérie, Fofana serait un gros plus pour la Côte d'Ivoire si Gassé arrive à le convaincre de revenir.
Prochain match des Fennec, ce sera à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Alors, elles sont étalées sur plusieurs jours.
Une équipe que Eric connaît bien.
pas facile, hein, je le dis tout de suite. Même si c'est l'Algérie, bien sûr. Mais, de jouer là-bas, cette équipe, elle joue au football. C'est pas facile.
Donc, elles sont étalées sur plusieurs jours. Hein, elle s'est étalée sur plusieurs jours. Cette deuxième journée, on voit que Libye, Tunisie, Ghana ou Madagascar ont déjà rejoué. Et tout à l'heure, en Eswatini, alors c'est pas très loin du Lesotho d'ailleurs.
C'était en Afrique du Sud.
C'était à Johannesburg. Voilà. Ah oui, alors. Mais en tout cas, c'était Eswatini, l'ancien Swaziland. Ils ont affronté le Burkina Faso et le Burkina a confirmé sa première victoire. Et là, ils ont gagné 3-1.
Un match qui était d'abord long à se décanter. L'Eswatini qui a ouvert le score sur un contre, on pensait que c'était un peu le traquenard pour le Burkina Faso. Et en 5 minutes, un doublé magnifique de Dango Ouattara, l'attaquant de Lorient, qui avait été replacé dans l'axe par Hubert Velud. Hubert Velud, d'ailleurs, qui a été testé positif au Covid et qui n'était pas sur le banc. Donc, c'est son adjoint qui a coaché l'équipe, avec les conseils à distance de Velud. Donc, tout ça est une très bonne opération. Le Burkina, 6 points en 2 matchs et se détache déjà en tête de sa poule. Sachant que les deux premiers sont qualifiés, c'est très bien parti pour les étalons.
Bah, c'est le pays voisin, alors espérons qu'ils seront de la fête
les
aussi.
Les hommes intègres.
Dans cette CAN. On continue, on va parler un peu des Bleus, qui eux aussi sont en compétition. Ça s'appelle la Ligue des Nations.
Ben Yedder, oh, c'est bon. Bien joué, ça.
Quel bon ballon pour Adrien Rabiot.
But.
Et Rabiot qui ouvre le pied. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France.
Bon contrôle. Excellent contrôle d'Orsic. Orsic, le petit ballon. Il est bon, la sortie de Maignan. Avec Kramaric. André Kramaric face à Maignan. Et le contre-pied. C'est terminé. Le coup de sifflet de Marco Guida pour mettre un terme à cette rencontre. Un but partout, score final entre la Croatie et l'équipe de France.
Pas de défaite, mais pas de victoire non plus des Bleus. Les champions du monde ont arraché ce match nul donc en Croatie face aux vice-champions du monde. Hein. Souvenons-nous de la finale en 2018 du côté de Moscou. Mais surtout, après la défaite face au Danemark, le sélectionneur français qui avait choisi de modifier radicalement son 11 de départ, hein, il y a eu 10 changements, c'est quand même énorme, eh bien, il a lancé enfin, sans doute, pour certains de nos auditeurs en tout cas, le jeune Boubacar Camara, le Marseillais, dans le baptême du feu. Il est entré en deuxième mi-temps et écoutons l'analyse de ce match, justement par Boubacar Camara.
On a très bien joué, avec un bon bloc. Voilà, on n'a pas baissé les bras. Et je pense que ce match nul est dur, mais voilà, on est sur la bonne voie et on va continuer à travailler. C'était une équipe très rajeunie. Après, moi, je suis rentré en cours de jeu. Après, voilà, il y avait quand même des joueurs qui avaient plusieurs sélections, même s'ils sont pas titulaires, on va dire, de base, mais ils ont du vécu dans ce groupe. Mais on a vu de la cohésion. C'est sûr qu'il y a des choses à travailler, car il y en a tout le temps après les matchs. Mais voilà, je pense que tous les joueurs ont répondu présent.
Alors, on sait qu'il y avait eu aussi un changement de style de jeu, hein, le fameux 3-5-2 remplacé par le 4-4-2. Et avec tous ces jeunes, Carlos Bianchi, êtes-vous d'accord avec Boubacar Camara quand il dit que les Bleus ont plutôt bien joué hier soir? C'était une première, hein, c'était la première fois pas, en gros, que cette équipe jouait.
Il y avait tellement de joueurs qui jouaient pour la première fois ensemble que ce n'est pas facile.
Exactement.
On croit que des fois, on change une demi-équipe et après, ça va tourner. Ce n'est pas facile de se faire tourner une équipe. Alors, je crois qu'ils sont pas très, très, très bien joués pour la simple raison qu'il y a des mecs qui étaient des joueurs qui savaient que c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. C'est tout à fait normal, la production qu'ils ont eue.
Mais alors, vous avez trouvé ça plutôt bien?
Non, mais ça, c'est l'entraîneur qui décide. Je dis qu'ils ne sont pas très bien joués, mais je justifie la raison pour laquelle ils ne sont pas très bien joués.
Donc, sans se connaître, finalement, peut-être que...
Quand on ne se connaît pas, ce n'est pas facile. Hein. Moi, si je ne connais pas le numéro 10 que j'avais à côté, je ne savais pas... Lui, il ne savait pas si je allais démarrer, je m'allais arrêter ou s'il allait me donner le ballon, il n'allait pas me le donner.
Ouais. Eric Rabessandratana, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de la prestation des Bleus d'hier soir?
Bah, oui, c'est vrai.
La presse est un peu sévère.
Bah, elle est sévère parce que c'est l'équipe de France et qu'on est exigeant avec l'équipe de France. Donc, forcément, elle est sévère.
Mais là, c'était l'équipe B.
Mais c'était l'équipe B. C'était voilà, les joueurs qui ont plutôt l'habitude de jouer assez souvent dans cette équipe, même si c'est avec d'autres joueurs, ont été plutôt bons.
Comme Rabiot.
Kimpembe était bon. Maignan était bon.
Très bon.
Maignan était bon, ouais. Donc voilà, non, c'est des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, un peu plus de certitude, on va dire.
La défense qui a inquiété l'autre fois, qui est peut-être le maillon faible de ces Bleus ces derniers temps. Est-ce que là, on avait Kimpembe qui a été très bien.
Qui a marqué des points.
Voilà.
Il a marqué des points par rapport aux autres. Là,
en
pour
patron, est-ce que ça reste quand même le point faible?
Ça reste le point faible parce que
ça manque de régularité, 4, ça manque de d'état d'esprit. Le Saliba, de je pense que c'est même pas la peine d'essayer dans l'axe, c'est pas possible pour lui. Je pense qu'il vaut mieux qu'il joue sur le côté que jouer défenseur central. Je pense que sur les deux matchs où il est rentré un peu là, c'était très compliqué pour lui.
Des difficultés donc, dans la lecture du jeu.
Dans la lecture du jeu, dans les automatismes. Mais... Non, mais même dans les déplacements, dans l'intelligence de jeu, par rapport à ça, c'est compliqué pour lui.
Il doute s'il doit anticiper ou pas anticiper, s'il doit rester ou pas rester. C'est là
et puis, c'est pas si il a fait deux matchs depuis le début. Donc, tu le mets dans une situation où tu ne le mets pas à son poste. Et en plus, tu le mets avec la pression qu'il y a tout autour. Je pense que ce n'était pas la meilleure chose pour lui.
Patrice Juillard, est-ce que malgré tout, on peut se dire que Didier Deschamps, en voyant évoluer son équipe, parce que finalement c'est le but aussi, est-ce que quand même il a dégagé certaines certitudes, il a avancé, disons, un peu.
À mon avis, il est en réflexion sur l'organisation défensive, parce que effectivement, on retient qu'il a changé 10 joueurs du premier au deuxième match, mais surtout, il a changé de schéma tactique, il est repassé à une défense classique à 4. Parce que ce qu'il a vu à distance, parce qu'il était malheureusement retenu par l'enterrement de son père, ce qu'il a vu à distance contre le Danemark a dû beaucoup lui déplaire dans la coordination, dans la manière de fermer les espaces, notamment avec notamment les frères Hernandez qui ont été calamiteux contre le Danemark. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir sur l'organisation défensive.
Je pense qu'il a changé le système parce qu'il y avait des joueurs qui ne s'étaient jamais joués ensemble. Alors c'est plus facile.
Oui, de jouer à 4-4-2.
4-4-2, tu couvres les espaces. L'espace, il se rétrécit. Alors c'est mieux.
C'est
par
base,
contre, si tu mets 3 défenseurs derrière et tu mets 4 au milieu, tu ne sais pas si celui-là, il doit revenir, il doit rester. C'est un chantier
ce qui est un peu inquiétant, c'est que contre le Danemark, c'était une équipe plus proche de l'équipe type. Et quand on a vu cette défense à 3 défendre, on se disait la même chose que vient de dire Carlos. On avait l'impression que les joueurs ne savaient pas ce que chacun avait à faire. Donc c'est compliqué parce que...
Mais en même temps, il y avait Varane, il a été remplacé.
Il y a le manque d'agressivité sur les phases défensives ou au milieu de terrain où Tchouaméni et Kanté n'étaient pas ensemble pour travailler au milieu de terrain, ce qui fait qu'il y avait un décalage, ce qui fait que ça a permis de donner des ballons comme ça. Et il y a aussi un problème de concentration et de savoir qui était tes défenseurs, tu peux pas le mec il s'est retrouvé entre les deux frères Hernandez, ils étaient à 3 mètres et 4 mètres de l'autre côté, c'est pas possible, c'est impossible ça.
Personne
au
ne
niveau,
serait,
c'est
quoi.
Impossible.
Bah oui.
Il a eu une touche de balle à faire, il a marqué, c'était facile, ils reviennent dans le match et après ils inversent la tendance. Donc ces choses-là, tu peux pas les faire. Alors, je pense que les mecs sont fatigués aussi. C'est-à-dire que là, ils arrivent, ils sont
là, ça va pas s'arranger, il leur reste 2 matchs à faire en moins d'une semaine.
Attention, mais ils sont tous fatigués.
C'est ça, c'est qu'ils sont tous fatigués.
C'est pas aux Coupes du monde.
Je me suis posé des questions quand j'ai commencé à voir les mecs se poser, Varane, Mbappé, ils commençaient à se mettre par terre, tu te dis waouh, et là c'est le premier match, il t'en reste 3 derrière et les mecs ils sont déjà, mais c'est normal en fait.
Ce calendrier est quand même démentiel. Certains joueurs ont joué 60 matchs.
Pourquoi il est accepté par les joueurs de football?
Ça c'est une question qu'on
pourquoi
se pose
tu
à chaque fois.
Si tu es en train de faire une compétition, que ça ne te rapporte rien.
Ben, ça ne rapporte rien et surtout ça,
ça
use...
rapporte de l'argent à la UEFA.
Oui, voilà, c'est surtout ça. Mais par contre, ça use.
Et aux fédérations.
Ça ne rapporte rien aux joueurs dans leur plaisir et ça leur use la santé en plus.
Non,
et
ça
va compromettre la qualité
de la Coupe du Monde.
Voilà, ça va compromettre au final la qualité de la Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas le but recherché, je pense.
Ni préparation. En tout cas, dégageons top et flop de ce match, si vous le voulez bien. Dans les tops, eh bien, nous, Rabiot. On a pensé que le gardien numéro 2, hier soir, dans les cages, Mike Maignan, le champion d'Italien, était très convaincant et qu'il justifie son surnom en Italie. Carlos, là-bas, à Milan, on l'appelle Magic Maignan.
Oui, il a fait un seul arrêt difficile, moi, je pense. Mais après, il n'y a pas eu beaucoup de travail à faire. Au pénalty, l'autre, il fait bien le coup, il ne peut rien faire, il s'arrête pile quand lui, il bouge. Mais sinon, il a fait un match correct. Les ballons aériens, il n'a pas eu de problème. Non, c'est un très bon gardien. Il a fait une saison extraordinaire.
Oui.
Parce que,
il a même effacé le nom de Donnarumma dans les mémoires
c'est ça.
Déjà,
Donnarumma, ils ne veulent plus le voir là-bas à Milan.
Exactement.
Déjà, depuis qu'il est parti,
c'est ce que nous dit Matteo.
Il ne faut pas qu'il revienne même pas en vacances. Mais lui, il va passer des années et des années à Milan.
Eric, est-ce que ça serait peut-être un moment de le mettre numéro 1 dans l'équipe de France.
J'ai pensé parce que je me dis que je pense qu'il y
arrivera. Lloris, n'oublions pas, il est aussi capitaine. Hein.
Oui, c'est ça. Je pense que je vois pas Didier Deschamps faire un truc comme ça à Lloris. J'imagine pas du tout. Quand je repense
Lloris ne démérite pas.
Voilà, c'est ça. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que voilà, tant que Lloris sera à la hauteur des choses, même s'il fait des petites erreurs ou des choses comme ça, je pense que Deschamps ne bougera pas. Par contre, Maignan marque beaucoup, beaucoup de points, je trouve. Que là, il est en train de montrer à tout le monde que... Parce qu'on a eu Mandanda à un moment donné, mais Mandanda, le pauvre, il n'a jamais eu réellement sa chance de s'imposer, finalement.
Lloris
là,
n'était
on arrive
pas
à une époque où Lloris, il va arriver au bout, et Maignan, il va forcément passer devant, c'est sûr.
Là, surtout, il y a Lloris, Maignan et le reste du monde. C'est-à-dire les deux... Ils sont très proches, effectivement. Je pense que Lloris, pour des raisons un peu d'ancienneté dans le groupe...
En plus, dans le groupe, il compte plus chez Lloris.
Dans le vestiaire, il restera numéro un, parce qu'en plus, Didier Deschamps est plutôt quand même quelqu'un de conservateur qui ne chamboule pas toutes les cinq minutes. Mais Maignan est un super numéro 2. On l'a vu hier, au-delà des arrêts qui n'ont pas été très nombreux, de la manière dont il parle à sa défense, dont il rassure les joueurs, on voit tout de suite que c'est un patron. Après, derrière... Je vous mets au défi de me citer un troisième gardien qui se rapproche du niveau de ces deux-là. Il n'y en a pas.
Et déjà, si avoir un numéro 2, déjà, c'est une chance.
Les espoirs, le gardien, c'est Ilan Meslier, qui est le gardien de Leeds, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle en Première Ligue et qui est très loin du niveau de Lloris et Maignan, malgré quelques qualités. Mais il n'y a pas aujourd'hui, même en Ligue 1, dans des bons clubs de Ligue 1, le seul qui aurait... Bon, il y a Mandanda, mais qui est en fin de carrière. Mais le seul qui aurait pu être un très bon numéro 3, c'est Anthony Lopes. Mais maintenant, il est pour le Portugal. Donc, oui, c'est plus possible.
Depuis quelques temps,
déjà.
Voilà, ça fait longtemps.
Mais...
Non, après, tu avais Lafont. Mais
Alban Lafont.
Est-ce qu'il a vraiment la carrure
c'est vrai.
Je ne suis pas sûr.
Dans les flops, Antoine Griezmann, le fameux petit prince qui n'a joué d'ailleurs qu'en deuxième mi-temps, hein, un peu comme Camara. Lui, il n'arrête pas des buts, mais il rate deux belles occasions, on va dire. Lui qui, quand même, rappelons-le, est le troisième meilleur buteur des Bleus avec 106 sélections. Il est en manque de réussite. Est-ce que... alors, on a bien vu sa saison à l'Atlético, ultra compliquée. Son dernier but date du mois de janvier, le 6 janvier, et c'était en Coupe du Roi avec l'Atlético, justement. Est-ce qu'il est dans le même état que tous les autres ? Est-ce qu'on peut lui trouver des excuses, Eric ?
Non, mais il y a des choses qui ne trompent pas. C'est-à-dire que cette action-là où il arrive, et qu'en fait, il arrive à faire le crochet, il récupère le ballon, et il tire n'importe comment. Et ces trucs-là, c'est un truc de manque de confiance. Si tu es en confiance, tu t'arrêtes. Et tu vas provoquer le gardien pour essayer de faire... Et là, il s'est précipité pour finir l'action. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça ? Et en fait, je pense que c'est vraiment un manque de confiance et de... Je pense de... Pas de forme, mais un manque de confiance.
Lui, il est parti d'Atlético à Madrid quand il était le plus haut.
C'est ça, je suis d'accord.
Et les années Barcelone et l'année d'Atlético à Madrid, les trois dernières années, il a fait un déclin. Et même en sélection, il n'a jamais... Réjouer de la même façon qu'avant de partir.
Un peu.
Quelques actions, quelques matchs.
Quand il était justement à Barcelone, on voyait quand il revenait à...
C'était son ballon. Oui,
parce que tu le voyais, parce que Barcelone n'était pas bon. Voilà. Alors, du moment qu'il faisait quelque chose à la sélection de France, tu dis oui.
Par contraste. Non,
il faisait des bonnes choses.
À l'Atlético, il était au summum. Et quand il est parti, il devait convaincre tout le temps. Et en fait, il n'a jamais réussi à convaincre tout le temps. Et comme il est revenu, quand il est revenu à l'Atlético, c'était pareil. Parce qu'il devait regagner le cœur du club, des supporters, et du coup il était dans la même situation qu'à Barcelone. Il devait convaincre et en fait il n'a jamais réussi.
Il y a quand même un élément qui explique aussi ce coup de moins bien durable en équipe de France, c'est le retour de Benzema, le fait qu'il y ait un duo maintenant incontournable, Mbappé-Benzema. Griezmann doit-il se situer par rapport à ce duo ?
Ça va être un thème, ça, hein, parce que quand tu as deux joueurs de pointe comme Benzema et Mbappé, il faut savoir si tu vas jouer avec Griezmann, même si Griezmann, tu le fais jouer numéro 10, disons, il a beaucoup de sacrifices.
Il sait le faire.
Il travaille beaucoup.
Pour lui être un attaquant, il travaille beaucoup. Alors, bon, disons, tu mets un milieu de terrain qui est équilibré avec lui, mais attention, hein, parce que tu as Benzema et Mbappé...
C'est compliqué tout ça, de trouver sa place. Et il y a en plus un sentiment peut-être de déclassement dans le vestiaire chez Griezmann. Les deux stars, maintenant, c'est Benzema et Mbappé. Et lui, un cran en dessous. Alors que Il y a encore, au moment de la Coupe du Monde 2018, le phare de l'équipe, c'était Antoine Griezmann.
Oui. Ça fait 4 ans en arrière.
Oui,
mais Carlos, vous êtes sélectionneur, vous le gardez quand même, parce que c'est un homme important dans le groupe de Deschamps.
Ouais, et puis c'est un bon joueur.
Il ne faut pas garder un joueur parce qu'il est important dans le groupe. Parce que s'il est mauvais,
oui. Non, mais dans
les
son
autres joueurs
aussi.
Ils disent « Mais celui-là, il est mauvais parce qu'il est important dans le groupe, il va à la sélection. » Non, il faut savoir s'il a le niveau pour être dans la sélection de France. Et après, s'il apporte beaucoup au groupe, c'est comme
Loris. C'est dur pour un sélectionneur de se séparer de celui qui a été finalement...
Même, c'est comme une équipe... Non, mais c'est pas un sélectionneur, mais c'est comme une équipe de football. Quelconque, tu es l'entraîneur, et si tu dois prendre des décisions, tu dois les prendre. Ce sont des décisions, si le joueur qui t'a donné tant, il n'est plus le même, tu ne peux pas tricher avec les autres.
C'est sûr.
Parce que les autres disent,
c'est
lui-là pourquoi il joue s'il n'a pas acheté la place. Hein. On n'achète pas la place, hein, on te la donne.
Et pour quelque temps, on le sait. On continue, on va parler un petit peu de l'Argentine.
Mais je ne comprends pas que vous ne parlez pas du match de ce soir qui joue un prochain adversaire de la sélection de France. Il y a un bon match aujourd'hui, l'Australie contre les Émirats arabes.
La pelota d'Ibala, ahora a ver, así va Messi, ¡ah! Está iluminado, está tocado, es el mejor, 5 goles, sigue haciendo historia, gol argentino, Messi, 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 por más fútbol, Messi.
Une équipe d'Argentine en pleine confiance en battant l'Estonie. Hein. L'Estonie, sur le score de 5-0, l'Albicéleste a aligné un 33e match sans défaite après sa victoire nette et séduisante contre l'Italie lors de la finalissima. Carlos, les Argentins sont-ils à placer parmi les favoris de la prochaine Coupe du Monde ?
L'Argentine, elle est toujours...
Favori au titre, bien sûr.
L'Argentine, elle est toujours parmi les favoris. Depuis toujours, elle était toujours parmi les favoris.
Donc
parce
qu'on
a des bonnes équipes. Des fois, ça arrive, et des fois, ça n'arrive pas. Mais l'Argentine, elle a toujours. Aujourd'hui, les
qu'est-ce qu'elle aurait de plus par rapport à celle de 2018 ?
Non, c'est l'expérience déjà. L'expérience. Il y a plein, les 100% des joueurs, ils ont joué plus de matchs en Europe. Parce que la différence des équipes des 70 aux 80. Avec les équipes d'Argentine d'aujourd'hui, que 99% ils jouent en Europe. Alors, ils ont la même préparation que toutes les équipes, tous les joueurs d'Europe. Alors, ça, c'est un en plus. Comprends ce que je dis ? Avant, les joueurs, ils étaient du pays et la préparation n'était pas la même. C'est pour cette raison-là que l'Argentine, s'il n'a pas de blessés, il a une très bonne équipe qui est à la hauteur des meilleurs d'Europe.
Qui sont les meilleurs actuellement dans cette équipe ?
Non, c'est une équipe qui sont... Il n'y a pas un joueur qui est meilleur qu'un autre. Tu peux parler
de
Paul, tu peux parler de Paul, tu peux parler de Martinez. Mais la question n'est pas là. Tu peux parler d'Otamendi derrière, ou le gardien, qui est très bon aussi. Mais la question, c'est que c'est une équipe que, sauf Messi, tous les joueurs ils sont du même niveau. Ils sont des très bons joueurs, ils ne sont pas des étoiles. Et ça, c'était important.
Est-ce que l'étoile, alors, c'est le sélectionneur Lionel Scaloni qui est arrivé un peu par défaut et qui finalement se révèle être un bon meneur de cette équipe argentine ?
Je crois que les joueurs, ils l'ont accepté. Et lui, il était un adjoint, ils sont partis tous, sauf il a resté lui. Et lui, ils l'ont donné l'équipe. Il a eu la chance dès qu'il a commencé à gagner. Et je crois qu'il a l'acceptation, il a l'accord de tous ses joueurs.
Patrick, cette équipe d'Argentine ?
Ce que dit Carlos, c'est juste. C'est-à-dire que l'expérience acquise en 4 ans ne peut pas faire de mal. Je trouve que c'est surtout l'efficacité, moi, que je trouve assez, assez importante dans cette équipe. Plus que la qualité de jeu dans l'ensemble. Hein.
Il n'y a pas, disons, un grand fond de jeu.
Non,
disons,
mais il y a de l'efficacité. Ils jouent assez juste. Et ils ont des tauliers au milieu.
On a retrouvé un Messi qui est décisif. Donc,
après,
forcément, ça joue aussi avec le reste.
Il ne faut pas non plus surestimer cette victoire. L'Estonie, c'est une des équipes européennes 110e, les plus faibles.
110e, hein.
Non, mais celle d'Italie, par contre.
Les buts, il faut les mettre.
La victoire contre l'Italie, elle a une vraie valeur.
C'était une image de gala, mais.
C'est plus probant, effectivement. Bon, je reste quand même je pense quand même que les meilleures équipes européennes restent un petit cran au-dessus de cette Argentine-là, en vue de la, si on doit désigner des favoris pour la Coupe du Monde.
Eric ?
Non, mais elle est favorite aussi de...
On voit que Paolo Dybala, par exemple, il a réussi à trouver sa place, finalement, dans cette équipe.
Parce qu'il y a toujours eu du talent à...
Oui, mais il avait du mal à s'installer, disons.
Ouais, mais je parle surtout de l'équipe d'Argentine. Il y a toujours eu du talent, depuis toujours. Il faut que tous ces talents-là se mettent en marche ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les grandes compétitions pour l'Argentine. Ça n'a jamais été une question de talent ou de choses comme ça. Ils avaient les joueurs pour faire les résultats, sauf qu'il leur manquait cette cohésion.
Je crois aussi qu'ils rêvaient toujours d'avoir un grand Messi.
C'est ça.
Ça fait 15 ans qu'il est dans la sélection de l'Argentine déjà.
Ouais, c'est vrai.
Ça va faire 15 ans, il a 35 ans.
Mais le fonctionnement a souvent été comme ça, parce qu'avant c'était Maradona, c'est Messi.
Ils attendaient que Messi les amène à être champion du monde, et c'est pas ça.
Oui. C'est pas passé très loin en 2014, ceci dit.
Oui, mais t'as passé. La question est là.
Un duel manqué, le but de Götze, et l'Argentine est battue par l'Allemagne, mais c'était passé de, n'oublions pas,
pas grand-chose, oui.
Sans jouer toujours de manière extraordinaire, pour moi, sur les... Depuis que Messi est dans l'équipe, la meilleure Argentine, Carlos sera peut-être d'accord ou pas, c'est l'époque de José Pekerman, c'était le mondial 2006. Là, je trouve que c'est vraiment une équipe qui avait un fond de jeu, qui était séduisante, qui était créative et qui malheureusement avait été éliminée assez tôt.
Voilà, à mon niveau.
Là, il y avait vraiment, je pense, une Argentine qui pouvait faire rêver. Depuis, c'est un petit peu plus, mais c'est peut-être aussi parce que Messi est devenu plus important que l'équipe en elle-même et qu'on s'en est un peu trop remis à son talent. Donc là, peut-être qu'avec un Messi peu déclinant
on va avoir
le retour d'un collectif.
Mais moi, je dis les joueurs, même les autres joueurs du groupe, ils sont plus d'expérience. Ils sont des matchs, une Coupe d'Europe, tous, la plupart.
Di Maria.
L'arrière droite, qui joue avec Villarreal, était champion d'Europe, lui. Tu ne sais même pas comment il s'appelle. Comprends, mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai,
c'est la réalité. Alors, ces joueurs-là, ils prennent 40, 50 matchs en Coupe d'Europe.
Lo Celso, pareil. Depaul, pareil. Et il y en a plein d'autres.
Tagliafico aussi.
C'est vrai.
L'arrière gauche.
Messi, il est dans l'équipe d'Argentine, mais il est aussi dans un certain club parisien, n'est-ce pas ?
Absolument.
Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse et ça revient, ça se revient comme une chanson populaire.
Et oui, Claude François, le disque est peut-être un peu rayé. Eric Rabet, Sandra Tana, oui. Ça s'en va et ça revient au PSG. Alors, c'était un clin d'œil. Luis Campos.
C'est les résultats ou les joueurs ?
C'est une chanson sur Leonardo, en fait.
Luis Campos a pris les rênes donc, du club, officiellement, installé non seulement par Nasser El Khelaifi, mais en plus avec l'assentiment de Doha. Il est conseiller sportif et secondé bientôt par un certain Antero Henrique qui était déjà il y a quelques années là. Tout le monde observe en se demandant quelles vont être les grandes manœuvres finalement qu'on a cru comprendre que ça se passerait au Paris Saint-Germain quand on a écouté Kylian Mbappé dire « je reste ».
Oui, il y a déjà un chantier. Le plus important pour préparer tout le reste, c'est l'entraîneur. Donc là, aujourd'hui,
qui s'appelle Mauricio Pochettino.
Absolument.
Mais qu'on dit partant.
Qu'on annonce partant, qui je pense, par rapport aux tendances et par rapport à ce qui a pu être vécu avec lui en tant qu'entraîneur, je pense que tout le monde a envie que ça change et qu'il se passe d'autres choses. Donc moi, j'ai du mal à croire qu'il reparte sur une année comme ça. Ça serait quand même très, très impressionnant.
Alors la rumeur, Christophe Galtier, qui viendrait de Nice, n'est-ce pas, Patrick Juillard ? Il viendrait de Nice et c'est un entraîneur français. On dit qu'il y aurait des désirs de franciser un peu cette équipe du Paris Saint-Germain qui est très internationale. Est-ce que c'est crédible pour vous ?
Je pense qu'il a une bonne relation avec eux à chaque fois, les joueurs. Il a toujours très très bien parlé du Paris Saint-Germain. Il a dans sa,
en tant que Marseillais
en tant que, non mais en tant qu'entraîneur adverse, en tant qu'il a toujours eu beaucoup de respect pour le club.
Il a jamais insulté l'avenir.
Voilà.
Hein,
non surtout. Mais j'allais dire, il a toujours été très malin de ce côté-là, dans son approche et dans le parce que c'est quand même du calcul, on le sait. Mais il n'empêche que voilà, après, il a une relation particulière avec Campos, avec qui il a travaillé à Lille.
À Lille, exactement.
Donc ça, c'est peut-être ce qui, mais je crois pas que ça peut être une option. Je pense vraiment pas que ce soit une option.
Tu sais où ça peut pas être une option? Que je pense que pour des gens qui ont fait des efforts pour que tout vienne, n'oublie pas qu'il y a eu un transfert. Nice, il a payé pour Galtier.
Ouais,
il y a un transfert qu'il a fait Nice.
Ouais, c'est vrai.
Alors, si tu as un contrat encore à respecter, même si j'ai du pognon et je suis milliardaire, l'anglais, si tu viens me chercher l'entraîneur, tu me donnes des pognons.
Il va falloir payer en plus pour Pochettino.
Toi, vis-à-vis des dirigeants qui te sont payés pour que tu viennes et qui ont fait un effort extraordinaire.
C'est moche.
Alors... Oui, sauf qu'il y a des doutes sur le projet à Nice.
Il y a des doutes sur.
Ah,
non, mais les Anglais, ils restent.
Non. Les Anglais restent, mais est-ce que Galtier veut rester? Il y a eu beaucoup d'eau dans le gaz entre lui et le directeur sportif du club, Julien Fournier. Il y a des noms d'entraîneurs qui circulent à Nice, comme si l'éventualité d'un départ de Galtier était envisagée. Donc on parle d'un retour de Lucien Favre, l'entraîneur suisse. On parle de Marco Rose, l'entraîneur allemand, ex du Borussia Mönchengladbach. Ou de Vincent Kompany, belge, issu
qui vient d'arrêter sa carrière,
du giron de Manchester City, et qui a été entraîneur d'Anderlecht. Donc ça fait quand même des possibilités. Et Galtier avec Campos, c'est un duo qui a déjà fonctionné. Donc c'est peut-être là-dessus que jouerait le Qatar. Et puis, vouloir franciser, c'est le PSG, c'est un peu une promesse de campagne de Kylian Mbappé quand il a re-signé. Un entraîneur français, ça donnerait un petit peu le ton. Sachant aussi qu'on a beaucoup reproché au PSG de ne pas acheter de joueurs en Ligue 1.
Mais tu dis les franciser et tu amènes deux Portugais.
Oui,
mais à la direction.
À la direction. Mais au club.
Mais bon, c'est déjà francophone. Hein. C'est déjà un progrès.
C'est bon, loin.
Alors, il y a aussi l'effectif peut-être à renouveler.
Ah,
mais
sûr.
Là, ils vont tomber peut-être sur un os. Eric Rabé, Sandra Tana, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout envie de partir et qui ont même envie d'aller jusqu'au bout de leur contrat. Ils l'ont dit sur les réseaux sociaux.
Il paraît que ça paye pas mal.
Mauro Icardi qui dit j'ai encore 2 ans de contrat. On a aussi
Leandro Paredes.
Draxler dirait la même chose. La liste est longue. Herrera, Danilo, Kurzawa.
Tous, Wijnaldum, ils sont tous prêts à repartir sur une bonne saison. Ils ont dit Mbappé a signé, c'est très bien pour le club, on a envie de rester. Sauf que voilà, mais après forcément, c'est impossible avec des contrats qu'ils ont.
À un moment donné, ils ont dit aussi que Paris Saint-Germain ne voulait plus le garder à Neymar.
Oui,
mais il a un contrat jusqu'en 2025.
Ils ont tous des contrats et des beaux contrats, c'est ça le hic. C'est le gros chantier que va avoir Antero Henrique de vendre ces joueurs-là. Je ne sais pas comment il va faire. Franchement,
il y a la vente effectivement qui est l'objectif, mais il y a aussi peut-être à défaut de vente le prêt comme ça a été fait pour Sarabia cette année.
Sauf que notre Paris Saint-Germain a une certaine tendance à prendre une grosse partie du salaire. Donc en fait, ça ne change rien. En fait.
Carlos, vous dites, vous ne comprenez pas quand les joueurs restent alors qu'ils ne jouent pas?
Ah, si moi je suis sûr que je ne veux pas jouer, si j'ai la possibilité de jouer pour ma place, je reste. Mais il y a des mecs qui savent déjà depuis 2-3 ans qu'ils ne vont pas... L'Allemand, je ne le comprends pas.
Draxler,
je ne le comprends pas.
Champion du monde.
Il est champion du monde, lui.
Oui, mais il est régalé beaucoup moins ailleurs.
Oui, mais... tu sais, au football, tu joues une seule fois dans ta vie.
C'est pas la même passion.
Et là, je passe vite.
C'est la fin de ta carrière, ces mecs-là.
Vous êtes un romantique, Carlos.
Non, je suis pas... Oui, j'étais romantique quand j'ai joué au football.
Passionné.
Je sais très bien.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui, c'est déjà fini, Carlos Bianchi. On se retrouve demain. Merci à tous.